Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Le 16 juin prochain, les Maisons de l'Europe, Centre Europe Direct du Limousin et du Lot-et-Garonne organisent un Café de l'Europe virtuel via la plateforme Zoom avec pour thème l'économie sociale et solidaire et l'Europe. L'invité de ce café est Morgane Dorr, anciennement conseillère technique Europe, vie associative et ESS à l'UNIOPS et notamment l'auteur d'une étude « Les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe » publié en mars dernier pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui afin d'en savoir plus sur le sujet. Bonjour Madame Dorr.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que l'on entend lorsque l'on parle d'économie sociale et solidaire et de tiers secteur ?
Oui, bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir pour cette chronique Europe. Les termes et les définitions sont comme souvent des sujets complexes et qui font débat et je vous propose pour le détail d'aller voir la première partie de cette étude qui synthétise et qui compare les différentes définitions. Pour faire simple, le tiers secteur, le troisième secteur, c'est une sorte de définition en creux de ce secteur qui le définit par ce qu'il n'est pas. Il n'est pas l'État ou le secteur public et il n'est pas le marché. L'économie sociale désigne quant à elle le tiers secteur, mais aussi des entreprises qui sont dans le marché, mais qui ont un fonctionnement et une manière d'envisager l'économie et les rapports sociaux et démocratiques différemment. Ces deux définitions se superposent en quelque sorte. Pour entrer un peu dans le détail, le concept d'économie sociale et solidaire, que nous appelons aussi ESS par son acronyme, désigne un ensemble d'organisations que l'on connaît tous. Les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations, qu'on appelle les familles historiques, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Et aussi des entreprises avec des statuts classiques, SA, SARL, EURL, mais dites sociales. Toutes ces organisations partagent un mode de gestion démocratique et participative. Elles sont encadrées strictement sur l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, c'est-à-dire que soit les bénéfices sont réinvestis intégralement, soit en grande partie dans le projet de l'organisation. Et enfin, leur modèle économique repose sur un système mixte, financement public, financement privé et des ressources non marchandes, le bénévolat, le don de temps, le prêt de locaux, les échanges de services, le lien social. Tous les secteurs sont représentés puisqu'il s'agit d'une frange d'acteurs qui partagent tous des modes d'organisation, de fonctionnement et des valeurs communes. Dans des secteurs assez évidents comme le sport, le tourisme, la culture ou l'éducation populaire, mais aussi dans des secteurs qu'on imagine moins comme le social, la santé, encore l'énergie, le bâtiment et même le secteur bancaire. C'est donc un secteur très très varié, déjà en France et vous vous en doutez encore plus en Europe. Alors on pourrait se demander quand même, malgré tout ça, si l'on ne parle pas d'une économie de niche, d'un micro-phénomène. Mais pas du tout, puisqu'en fait, selon l'observatoire dédié à l'économie sociale et solidaire, cette famille d'organisations représente en France en 2019 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé en France, et la création entre 2010 et 2018 de 71 000 emplois. Et en 2011, une étude du CIRIEC, qui est un centre d'études et de recherche au niveau européen, évalue que l'économie sociale emploie plus de 11 millions de salariés dans l'Union européenne, soit 6% de l'emploi total en Europe.
Alors là, c'est vrai que vous parlez du poids de l'ESS dans l'Union européenne. Justement, si on apporte un regard européen, quelle est la place qui a été faite à l'ESS et au tiers secteur tout au long de la construction européenne ?
Alors, l'ESS a une histoire très longue et très riche. Après, mon étude porte davantage sur le tiers secteur, c'est-à-dire plutôt les organisations proches de la famille associative, telle qu'on la connaît en France, et moins les mutuelles, les coopératives ou les fondations. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie d'ailleurs à un ouvrage de Timothée Duverger, « L'économie sociale et solidaire, une histoire de la société civile en France et en Europe, de 1968 à nos jours », aux éditions du Bordelot. Ce qui m'a intéressé dans l'étude que j'ai menée, c'est que le courant idéologique de ce qu'on appelle l'associationnisme ouvrier et du catholicisme social se développe en Europe à la fin du 19e et au début du 20e siècle, parallèlement à la montée croissante de la pauvreté créée par l'économie industrielle et en réponse à la critique du capitalisme. comme au Royaume-Uni d'ailleurs, c'est d'abord les milieux ouvriers des grandes villes et des concentrations manufacturières du capitalisme industriel naissant que vont se créer les sociétés d'entraide mutuelle, les coopératives de travailleurs et les associations ouvrières. L'économie sociale y est alors représentée un peu à une intersection idéologique assez complexe entre socialisme associationniste, christianisme social, libéralisme et solidarisme. Je reviendrai un peu plus si besoin sur cette histoire et ses courants lors de la visioconférence du Café de l'Europe pour celles et ceux que ça intéresse. Cette reconnaissance s'est faite au niveau des institutions européennes en plusieurs temps. Une première phase qui a été commencée dans les années 80, lors de la commission de Jacques Delors, qui cherchait une définition de statut européen, les mutuelles, les associations et fondations. Il y avait d'ailleurs un comité de liaison qui avait été mis en place sur le sujet par ces organisations dans les différents pays européens à Bruxelles. Pour des questions juridiques, puisque les statuts des organisations étaient très différents d'un pays à l'autre, mais aussi pour des questions politiques et culturelles, ces statuts n'ont jamais abouti. Je vous renvoie notamment à un article sur le statut européen d'association de Jérémy Kendall et Laurent Fraisse, qui est disponible en libre accès sur Internet et qui détaille bien les choses. La Commission européenne, en 2011, a publié l'initiative pour l'entrepreneuriat social. Ça marque un tournant dans l'histoire des institutions et dans la prise en compte de l'ESS. Elle y définit globalement l'entreprise sociale comme une entreprise dont le principal objectif c'est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires, d'utiliser ses excédents principalement à des fins sociales et qui est soumise à une gestion responsable et transparente. Alors elle va y définir l'entreprise sociale et non pas les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et on voit ici qu'il y a un changement de posture politique et une volonté d'englober tous les acteurs de l'économie sociale sous la bannière des entreprises sociales et au niveau européen de ce qu'on appelle le social business. En parallèle, en Europe, plusieurs pays adoptent une loi nationale sur l'ESS. En 2014, en France, bien sûr, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suède. Les choses vont s'accélérer ensuite en 2015 avec la déclaration de Luxembourg et en 2017 avec la déclaration de Madrid, où des dizaines de pays européens signent des déclarations politiques communes pour s'engager à faire une feuille de route pour maintenir des conditions et permettre le développement de l'économie sociale en Europe et enjoindre les institutions européennes à les soutenir. Il y a donc une volonté commune de plusieurs États européens de travailler ensemble avec les institutions européennes sur le sujet. Et pour ça, je vous renvoie aussi au travail de Social Economy Europe, qui a un site internet qui détaille bien les choses.
Si on s'intéresse de plus près à l'ESS et au tiers secteur dans l'Union européenne, est-ce que tous les États membres en ont la même définition ?
Alors non, bien sûr, et c'est aussi ça qui ajoute à la complexité, puisqu'on a vu que c'était un secteur déjà très hétérogène. Il y a quasiment autant de définitions que d'États, même s'il y a des caractéristiques communes. Et puis chaque pays a son histoire, des organisations de l'économie sociale, qui se sont créés donc en lien avec l'histoire, la construction culturelle du pays, mais aussi le rapport de ces organisations à l'État, au marché, à la tradition philanthrope, comme au Royaume-Uni, ou au bénévolat, comme en France, ou au Danemark, où 90% des résidents, par exemple, sont membres d'au moins une structure associative. Elles ont donc des noms et des fonctionnements différents, bien qu'elles partagent ces caractéristiques communes. Par exemple, les associations en France sont consacrées sous leur forme actuelle par la loi 1901, qui est arrivée à un moment précis dans l'histoire du pays, notamment pour contrôler les associations religieuses et limiter leur pouvoir et leur richesse. Celle qui est une grande loi qui consacre la liberté de s'associer est aussi une loi de contrôle de l'État français sur les organisations privées, laïques ou culturelles qui avaient toutes été dissoutes et interdites à la Révolution française. De même que les organisations de certains pays, comme l'Allemagne ou la Belgique, sont influencées et ont été très influencées par le rôle des églises, des corporations et des syndicats, ou celui de certains États d'Europe de l'Est, par le communisme et le post-communisme. C'est donc une approche sociologique, économique et politique qu'il faut mener pour bien comprendre le rôle des organisations de l'économie sociale et solidaire qui ne sont ni complètement dans le marché, ni étatiques, comme on l'a vu. Elles proposent des relations complémentaires. Souvent, elles peuvent aussi se substituer quand il y a des manques ou quand il y a des failles proposées par l'État ou par le marché, et elles viennent finalement combler les besoins et les attentes des citoyens qui vont décider de s'organiser pour apporter une réponse collective à un besoin non ou mal pourvu.
Selon vous, comment il serait possible de mieux valoriser cette économie au niveau européen ?
Alors pour moi, c'est à la fois l'enjeu de mieux valoriser, mais aussi de valoriser différemment. Finalement, de prendre les acteurs de cette autre forme d'économie pour ce qu'ils sont, et pas uniquement les richesses économiques qu'ils produisent. L'étude, finalement, menée propose de s'interroger sur la capacité pour les institutions européennes d'être en mesure de promouvoir des organisations qui défendent un modèle en dehors de l'entreprise classique. L'entreprise classique, elle est à but lucratif, c'est-à-dire son existence, sa raison d'être, son but, c'est de générer du profit. Là, il s'agit que l'Union européenne puisse promouvoir des organisations, des organisations du tiers secteur de l'économie sociale et solidaire, en reconnaissant leur modèle non lucratif ou à lucrativité limitée. Donc non lucratif, elles ne sont pas du tout créées pour faire du profit. Tous les bénéfices qu'elles génèrent sont réinjectés intégralement dans le projet, ou à lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite part qui est reversée et le reste est intégralement pour le projet. Ces organisations qui ont aussi une gestion désintéressée, c'est-à-dire que leurs instances dirigeantes sont pour la plupart bénévoles, ou en tout cas non rémunérées sur le capital, et elles ont une capacité à mettre en œuvre des services d'intérêt général, économique, mais non marchand, donc en dehors du marché ou en tout cas à sa frontière. Donc finalement, comment promouvoir des organisations qui ont comme principe de fonctionnement des valeurs de solidarité non marchande dans une union économique qui repose sur les valeurs du marché et l'économie néolibérale, c'est la grande question à se poser. En tout cas, c'est la question qu'on se pose dans cette étude, puisque, comme le disait Jacques Delors, il y a déjà plus de 15 ans, puisque c'était en 2004, sans une meilleure organisation du tiers secteur, nous ne pourrons pas réaliser la solidarité et le lien social dont la société de demain aura besoin.
Eh bien, merci Morgane Dor pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle que l'étude que vous avez publiée, donc les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe, est disponible sur le site de l'INGEP, donc INJEP. Le Café de l'Europe virtuel, l'économie sociale et solidaire et l'Europe, se déroulera le mardi 16 juin à 18h. Pour y participer, vous trouverez le lien de participation et d'inscription sur notre site internet europe-limousin.eu, mais également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et l'accès à cet événement est bien sûr gratuit. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin et à bientôt pour la prochaine Chronique Europe le 18 juin.
Merci. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope, but the flame is getting low. I've been waiting on the